Merci. Alors, selon le... Vous avez certainement remarqué ça, hein. Selon le type de nouvelles que nous annonçons aux gens, nous sommes plus ou moins bien accueillis. Et je vous... on va voir... je vais vous dire deux professions et vous allez me dire si, selon vous, ces gens sont plus ou moins bien accueillis. En règle générale, les huissiers de justice. Alors, on va se mettre dans la situation. Vous êtes chez vous, on sonne à votre porte, c'est un huissier de justice. En règle générale, donc dans cette profession, hein, parce que c'est un métier, ces gens-là sont globalement, leur soir, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils se disent « Tiens, aujourd'hui, comment s'est passée ma journée ?» Et quel est plutôt leur sentiment par rapport à l'accueil qui leur a été réservé? Oui, on fait comme ça. Souvent, c'est pas terrible, parce que quand ils sonnent à votre porte, c'est souvent pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Que vos biens ont été saisis, que vous devez telle ou telle somme d'argent. Une autre profession, un peu moins courante, est celle-ci. Il s'avère que la Française des Jeux a un service qui est le service des gros gagnants. Et ce service, les gens qui travaillent dans ce service rentrent, je dirais, enfin, commencent à travailler lorsque les gens ont gagné au moins 1 million d'euros. Donc leur rôle, c'est d'aller trouver ces personnes. Alors quand ces personnes-là de la Française des Jeux, service des gros gagnants, sonnent à une porte, globalement, comment pensez-vous qu'ils sont accueillis? Plutôt bien, hein. Oui, certainement, selon la nouvelle que nous annonçons, nous sommes plus ou moins bien accueillis. Eh bien, savez-vous que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous sommes les porteurs d'une bonne nouvelle. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 10. Si vous avez une Bible blanche... C'est à la page 739, même dans ta traduction aussi. Je vais projeter le passage et je vais vous le lire. Voici ce que Paul écrit. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes les porteurs d'une bonne nouvelle. Annoncer l'Évangile est une belle et magnifique mission. C'est notre mission. Cela fait de nous des porteurs d'une bonne nouvelle. Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous vous rendez compte? La beauté de notre mission. Le Seigneur ne nous a pas chargé d'annoncer des catastrophes aux gens, mais d'annoncer de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui viennent de la part du Seigneur. Quelle bonne nouvelle! Alors l'Évangile, bien sûr, alors vous savez que le mot « Évangile » signifie bonne nouvelle. C'est un mot grec qui signifie bonne nouvelle. D'ailleurs, certaines des traductions que vous avez probablement remplacent dans notre passage le mot bonne nouvelle par évangile. En règle générale, ils remplacent juste le deuxième mot parce que le premier est au pluriel, de bonne nouvelle. Et un peu plus bas, il est question simplement de bonne nouvelle au singulier. Donc on met le mot évangile. Mais évangile signifie bonne nouvelle. Notre mission est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, parfois, on résume le message de l'Évangile au salut qui nous est offert par Jésus-Christ. Alors, nous avons, en tout cas, raison de considérer que le pardon de nos péchés est obtenu grâce au sacrifice de Jésus. C'est ce qui est au centre de l'Évangile. En ceci, nous avons raison. Mais nous devons aussi être conscients d'une chose, c'est que l'Évangile ne se résume pas à la bonne nouvelle du salut et de la vie éternelle que nous avons obtenue par la foi en Jésus. Ce que l'on appelle l'Évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle par rapport à notre salut, par rapport à notre vie future. L'Évangile, c'est un ensemble de bonnes nouvelles qui viennent de Dieu et qui concernent tous les aspects de notre vie. L'Évangile, c'est par exemple l'offre d'un changement de relation avec Dieu. C'est une vie nouvelle qui nous est proposée, pas seulement la vie éternelle, mais une vie nouvelle dès à présent. De ennemis de Dieu, nous pouvons devenir enfants de Dieu. L'Évangile est un ensemble de bonnes nouvelles. Comme par exemple la nouvelle que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Que Dieu est venu nous sauver dans la personne de Jésus et que Dieu vient habiter en nous par son esprit. Si nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, alors Dieu, par son esprit, vient habiter en nous. Il est étroitement lié à nous. Toutes ces choses, et bien plus encore, sont de bonnes nouvelles. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces bonnes nouvelles? Et Dieu, dans sa parole, nous met en garde contre deux écueils. Le premier, c'est de considérer que cela ne sert à rien d'annoncer l'Évangile. C'est peine perdue, ça ne sert à rien. Et l'autre écueil, ce serait de considérer que l'annonce de l'Évangile va obligatoirement porter du fruit. Tout d'abord, par rapport à ce message, nous devons être conscients qu'il n'est pas inutile d'annoncer l'Évangile parce que c'est grâce au message de l'Évangile que des hommes et des femmes se tournent vers Dieu. Alors, vivre en chrétien parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est bien. Refléter la personne de Jésus au travers de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, ça permet ainsi de donner un aperçu de ce que Dieu peut faire dans une vie. En tout cas, de ce que Dieu fait dans notre vie. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pour que des personnes puissent faire un appel au Seigneur, pour qu'ils croient en Jésus, il faudra qu'ils entendent le message de l'Évangile. C'est ce que nous dit le verset 14. Comment donc feront-ils appel en celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comment quelqu'un pourrait-il croire en Jésus s'il n'a pas entendu parler de lui? Et le verset 17 souligne que la foi vient forcément d'un message que l'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et il poursuit en soulignant de quelle source doit provenir ce message. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour conduire quelqu'un à la véritable foi, il faut que le message soit véridique. Il n'est pas simplement question qu'une personne croit. On peut croire en des tas de choses. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que la foi soit véridique, il faut qu'elle soit fondée sur un message de vérité, le message que contient la Bible, le message que Dieu veut faire entendre aux hommes. Eh bien, nous sommes les porte-paroles de Dieu. Alors, nous pensons parfois que dans notre pays, donc la France, tout le monde a déjà entendu l'Évangile. Eh bien, je crois que c'est faux et même que c'est archi faux. Il est faux de croire que la plupart des gens ont déjà entendu la bonne nouvelle ou les bonnes nouvelles que Dieu veut leur annoncer. Alors, tous nos concitoyens ont entendu parler de Jésus, ça oui. Certains d'entre eux même croient en lui, croient que Jésus existe. Mais en tout cas, tous n'ont pas entendu ou tous n'ont pas compris l'évangile. Et même parmi ceux qui se considèrent comme chrétiens, même parmi ceux qui ont une pratique religieuse. Par exemple, bien des gens ignorent que Jésus a donné sa vie pour les sauver et que le don de cette vie est suffisant. Ils s'imaginent plutôt, hein, c'est ce que moi je rencontre, hein, ils s'imaginent plutôt que Jésus est venu vendre notre salut. C'est-à-dire que pour obtenir ce salut, il va nous falloir payer, donner quelque chose qui est coûteux, accomplir un certain nombre de choses pénibles de préférence, pas des choses agréables, non, des choses pénibles. Ils pensent ainsi que, quelque part, ils pourront acheter leur salut. Ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout, hein. Parce que pour pouvoir acheter notre salut, eh ben, je peux vous dire qu'il va falloir payer beaucoup et que personne ne pourra se racheter lui-même. La bonne nouvelle que ces gens ont besoin d'entendre, c'est que nous sommes sauvés par grâce. On ne rachète pas notre salut. Nous sommes sauvés par grâce. C'est Jésus qui a payé le prix de notre salut. Mais pas simplement, il a payé une partie du prix de notre salut. Il a payé pleinement le prix de notre salut. Et nous n'avons donc pas à nous racheter nous-mêmes. Nous n'avons pas à racheter notre salut, nous devons simplement l'accepter avec reconnaissance. Peu de gens dans la rue qui croient en Jésus sont réellement convaincus de cela. Bien des gens aussi croient en Dieu, mais ne savent pas que Dieu les aime. Ou alors, ils imaginent, comme on a tous tendance à faire, ils imaginent que l'amour de Dieu est conditionnel. Il faut mériter l'amour de Dieu pour que Dieu nous aime. Mais l'évangile, c'est que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Pas en raison de ce que nous faisons, mais en raison de ce que nous sommes, des hommes et des femmes créés en l'image de Dieu. Et cet amour, il ne faut pas le mériter, il faut simplement le recevoir. Bien des gens croient en Dieu, mais même en Jésus, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent directement s'approcher de lui, le prier, lui rendre un culte. Ils pensent qu'il leur faut passer par des intermédiaires humains, ou bien des saints, ou bien des rites, ou bien aller dans un lieu spécial. Ces gens-là ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont considérés aux yeux de Dieu comme des prêtres. Vous savez, c'est le premier texte qui a été projeté. C'est-à-dire que il n'y a plus d'intermédiaire entre eux et Dieu. Un accès direct au Père. Le seul médiateur dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus devient notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons un accès direct auprès de Dieu. Contrairement à ce que l'on imagine, l'évangile n'est pas connu, ou alors il est mal compris. Et il est donc important, ça nous laisse une grande place pour pouvoir annoncer l'évangile aux hommes et aux femmes que nous rencontrons. Parce que grâce à cet évangile, ces hommes et ces femmes pourront alors se tourner vers Dieu. Je dis pourront se tourner vers Dieu parce qu'il ne suffit pas d'annoncer l'évangile pour que cela porte automatiquement du fruit. Parce qu'en effet, si nous, notre mission est d'annoncer l'évangile, de faire connaître aux autres la bonne nouvelle que Dieu veut leur adresser, il appartient à ceux qui ont entendu l'évangile de se tourner vers Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous sommes des porte-paroles, mais après, ce que les gens font de cela leur appartient. Il leur appartient de se tourner vers Dieu. Et parfois, là, on a une mauvaise compréhension de ce qu'est la parole de Dieu, hein. Et nous nous imaginons, quelque part, qu'il suffit d'annoncer l'évangile, qu'il suffit de citer quelques passages bibliques pour que cela produise un effet. On croit en une espèce de magie chrétienne. Voilà, je fais entendre telle et telle chose, et cette parole va cheminer chez la personne. C'est souvent ce qui se passe. Mais en tout cas, nous aurions tort de croire que c'est automatique. Et en fait, nous nous appuyons parfois sur un verset qui se trouve dans la Bible, Ésaïe 55:11, qui dit ceci: « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, et remplit la mission que je lui ai confiée. » Parole biblique. Mais dans ce passage, il est question de Dieu et pas de nous. Et c'est une manière un peu imagée de dire que tout ce que Dieu décide s'accomplira de manière certaine. C'est un peu comme si Dieu était face à une montagne. Si Dieu dit à cette montagne « Écroule-toi », la parole de Dieu ne va pas revenir comme un écho. « Écroule-toi, écroule-toi ». Non. La parole de Dieu va manifester la puissance de Dieu, cette montagne va s'écrouler. Lorsque Dieu dit quelque chose, cela s'accomplira de manière certaine. En revanche, lorsque nous disons des choses qui viennent de la part du Seigneur, nous ne savons pas quel effet cela produira. Mais pourtant, il nous faut annoncer cette parole, parce que grâce à l'annonce de l'Évangile, des hommes et des femmes qui sont loin de Dieu peuvent venir à lui. Mais cela ne se produira pas de manière certaine. Et là, nous rentrons dans un domaine un peu qui nous échappe, encore mystérieux, c'est celui de l'articulation entre la puissance de Dieu et la liberté de l'homme. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les cœurs, nous ne savons pas de quelle manière Dieu opère, c'est Dieu qui touche les cœurs. Mais cette articulation nous échappe un peu. Mais ce que dit en tout cas la parole de Dieu, c'est que tous ceux qui auront entendu l'Évangile et qui feront appel à Dieu seront sauvés. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Cela veut dire que nous, notre tâche n'est pas simplement d'annoncer la parole de Dieu, mais également de prier. De prier pour que Dieu touche le cœur de cette personne, pour que son cœur s'ouvre au Seigneur. Mais en même temps, Dieu nous prévient que tous n'obéiront pas forcément à la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui parfois nous fait mal, parce que tous, nous connaissons des gens qui ont entendu l'Évangile, mais qui pourtant ne semblent pas être venus au Seigneur. Et cela est une souffrance pour nous et peut nous donner l'impression qu'annoncer l'Évangile ne sert à rien. Mais si jamais c'est notre cas, je pense que je peux me dire, puisque c'est notre cas, gardons espoir. Parce que Dieu ne force pas les cœurs, ça c'est vrai, mais Dieu invite les cœurs à s'ouvrir et à l'accueillir. Et cela peut prendre du temps, et cela peut nécessiter également, pour ces personnes, non pas d'avoir entendu l'Évangile une seule fois, mais peut-être 10, 100 ou 1000 fois, et aussi de l'avoir entendu de manière différente, avec d'autres angles d'attaque. Parce que l'Évangile ne se limite pas au seul message que Jésus est mort à notre place pour nos péchés. L'Évangile est un ensemble de bonnes nouvelles qui viennent de Dieu et qui concernent tous les aspects de notre vie. Et un jour, peut-être que quelqu'un sera touché non pas par la partie centrale de l'Évangile, mais peut-être par un des aspects périphériques de l'Évangile. Et ainsi, ça l'amènera à ouvrir son cœur à Dieu et ensuite à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je pense que cela est assez compréhensible vu la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Parce que dans notre annonce de l'Évangile, nous sommes confrontés aujourd'hui à une véritable difficulté que ne connaissaient pas forcément ceux qui nous ont précédés. L'Évangile que nous annonçons est une bonne nouvelle. Le problème, c'est que les gens que nous avons en face de nous ne savent pas qui sont en bien mauvaise situation par rapport à Dieu. Alors, nous voulons leur annoncer que Jésus veut les sauver, mais ils ignorent qu'ils sont perdus. Ça veut dire que notre annonce de l'Évangile résonne pour rien, elle est vide de sens. Comment quelqu'un pourrait-il se dire « je veux être sauvé » alors qu'il ne sait même pas qu'il est perdu ? Ou alors, si nous voulons que les gens comprennent clairement le message de l'Évangile, nous sommes alors confrontés à une situation qui n'est pas facile, parce que pour pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle du salut, il nous faut déjà commencer par leur annoncer la mauvaise nouvelle qu'ils sont perdus. Et en règle générale, lorsque vous annoncez une mauvaise nouvelle à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve face à ça, face à un mur. La personne se ferme. Parce que personne, y compris nous, personne n'aime entendre de mauvaises nouvelles. Personnellement, je ne garde pas de très bons souvenirs de porte à porte que j'ai fait pour annoncer l'Évangile. Pas parce que j'avais été chargé de lancer une bonne nouvelle, mais parce que les gens que j'avais en face de moi, généralement, ne savaient rien. Ça veut dire qu'il fallait déjà que je commence par leur expliquer une chose. Vous êtes perdus, vous êtes mauvais aux yeux de Dieu, vous êtes condamnés par Dieu. Pour engager une conversation, lorsque vous avez à peu près 2 minutes pour parler à quelqu'un, vous êtes mal engagé. Heureusement, parfois, Dieu avait préparé le terrain et il s'avérait qu'ils avaient déjà eu un cheminement. Mais ça veut dire qu'ils étaient déjà prêts, de leur côté, à entendre non pas une mauvaise nouvelle, mais entendre une bonne nouvelle. Dans tous les temps, et dans toutes les cultures qui nous ont précédés, les hommes ont eu la crainte de la divinité. Ils étaient conscients qu'ils étaient coupables aux yeux de Dieu, ou aux yeux des dieux, lorsqu'ils croyaient qu'il y en avait plusieurs, et qu'il fallait apaiser leur colère. Alors, bien souvent, ils s'y prenaient très très mal. Ils avaient des idoles, qu'il fallait rendre un certain nombre de cultes, qu'il fallait offrir un certain nombre de choses. Ils étaient pleins de superstitions, c'est incroyable. Alors, dans les histoires de nos campagnes françaises, de voir à quel point nos ancêtres vivaient dans la crainte. Je veux dire, les paysans, pour pas qu'une vache meure, il fallait faire telle et telle chose. Pour pas qu'un grenier brûle, il fallait faire telle chose. Ils vivaient dans la peur d'être frappés par une malédiction. De tout temps, les hommes ont essayé de faire des sortes de rituels magiques, d'offrir des sacrifices, même parfois à d'autres personnes, pour apaiser la colère de Dieu. Et dans un tel contexte, l'annonce de l'Évangile ne pouvait être qu'une bonne nouvelle. Alors, les gens y croyaient ou ils ne croyaient pas. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'ils vivaient, l'annonce de l'Évangile ne pouvait être qu'une bonne nouvelle. Eh bien, de nos jours, ce n'est plus le cas. Et en plus, encore difficulté spécifiquement française, en France, parler de Dieu n'est pas bien vu. Ça fait partie des tabous. Parler de Dieu à un inconnu, parler de Dieu à des collègues de travail, parler de Dieu même à des personnes de notre famille, c'est considéré comme presque une violation de la vie privée. Nous sommes confrontés à ces difficultés-là. Il est donc normal que lorsque nous cherchons à annoncer l'Évangile directement, en allant directement au cœur du message, nous nous retrouvions souvent face à ça, face à un mur. Alors, plutôt que de chercher à annoncer une bonne nouvelle qui en fait n'en est pas une pour les personnes qui sont devant nous, pourquoi ne pas annoncer les bonnes nouvelles que les gens ont besoin d'entendre? Parce que les gens ne savent peut-être pas qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais ce n'est pas pour autant que les gens n'ont pas de besoin spirituel. Parce que vous savez, des gens vraiment heureux, il n'y en a pas beaucoup. S'il y a une des choses que je garde de mon expérience de pompier, c'est ceci, c'est que les gens ont des apparences. L'apparence du bonheur. Mais ce qui se passe derrière, dans les foyers, dans les maisons, souvent, c'est catastrophique. En surface, heureux, mais en profondeur, de grands vides, de grand mal-être, même parmi les gens qui, soi-disant, sont heureux. Et parce que ces personnes connaissent en eux de grands vides, de grands mal-être, alors il y a une place pour nous, pour leur annoncer une bonne nouvelle qui vient de Dieu. Alors peut-être pas encore la partie centrale de l'évangile, mais au moins un des aspects de ce que Dieu peut faire dans la vie de ceux qui croient en Jésus. Et après avoir entendu et compris ces bonnes nouvelles, ces personnes pourront alors peut-être placer leur foi en Jésus, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et voici quelques exemples de bonnes nouvelles que nous pouvons annoncer selon les besoins des personnes que nous rencontrons. Mais ça aussi, ça implique une chose, ça veut dire que nous sommes amenés à connaître un peu ces personnes. Et j'ai jeté un œil sur Elisabeth juste avant, et Elisabeth et nous, là, nous connaissons quelqu'un qui vient de se suicider. Quelqu'un que nous côtoyons de temps en temps. Et moi, ce qui me fait bizarre, c'est de me dire, mais j'ai discuté avec cette personne 48 heures avant qu'elle meure. Et ma discussion m'a semblé normale. Et je n'ai pas perçu la détresse qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Dans l'annonce de l'évangile, nous avons parfois l'illusion qu'on peut parler à un inconnu en règle générale. Et je pense dans le contexte dans lequel nous vivons, l'annonce de l'évangile se fait d'abord par réussir à tisser les liens avec des personnes pour être au moins capable de connaître une partie de ce qu'elles vivent. Et parmi les gens qui ouvrent leur cœur, voici parfois ce que nous entendons. Combien de gens ont l'impression que la vie n'a pas de sens? Au bout d'un certain temps, généralement avec les années qui passent, les gens disent « Mais ça n'a pas de sens cette vie, ça sert à quoi? Quelle est ma raison d'être là? Pourquoi faire ?» Eh bien, par rapport à ces gens-là, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. La vie a un sens, même si nous vivons dans un monde de fous, parfois dans un monde qui nous échappe. La vie a un sens. Cette vie-ci est l'opportunité que Dieu nous offre de le rencontrer. On peut tout rater dans notre vie, hein. On peut rater notre vie professionnelle. On peut rater notre vie affective. On peut tout rater. Mais s'il y a une chose à côté de laquelle nous ne devrions pas passer, c'est le fait d'être réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le sens de cette vie. Dieu nous offre l'opportunité d'être réconciliés avec lui. La vie a un sens, celle de pouvoir rencontrer Dieu, de nous réconcilier avec lui. D'autres personnes, parfois, nous disent qu'elles n'ont pas d'espoir. Et généralement, lorsqu'on dit ça, c'est que la vie semble bien pénible, bien lourde. Ou parfois, nos attentes sont tellement élevées qu'on constate que dans ce monde, il n'y a rien. C'est creux. On est triste, on n'est pas heureux. Eh bien, nous avons une espérance. Cette espérance, c'est de ne pas simplement connaître cette vie-ci avec toutes ses frustrations, ses tristesses, ses fardeaux, mais de connaître la véritable vie. Une vie où il n'y aura plus ni pleurs, ni tristesse, ni souffrance. Une vie dans un monde où le péché aura disparu. Ça, c'est la vie que Dieu nous offre. C'est cette vie formidable à laquelle nous sommes invités. Aussi, on rencontre des gens qui, elles, portent un poids terrible sur les épaules, le poids de leur passé. Et elles se disent, mais en raison de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu, ma vie est quelque part foutue, Dieu ne peut pas m'aimer, Dieu ne peut pas m'accepter. Là, il y a une bonne nouvelle pour ces gens-là. C'est d'entendre que Dieu les aime, et non pas pour ce qu'elles ont fait, mais les aime pour ce qu'elles sont. Et elles ont une bonne nouvelle à entendre, c'est que quel que soit ce qu'elles ont fait dans leur passé, Dieu peut leur donner une vie nouvelle, balayer les péchés, les effacer, ne plus en tenir compte, leur offrir une vie nouvelle, un nouveau départ. Ça, beaucoup de gens rêvent de cela. Parfois aussi, les gens se disent, mais qu'ils ne changeront jamais. Et ça, ça les rend tristes, c'est quand ils réalisent qu'ils sont égoïstes, durs. Généralement, c'est quand Dieu a commencé à faire un travail dans un cœur. savez que c'est bon signe lorsque quelqu'un dit « mais moi j'ai un cœur qui est dur ». Ça veut dire au moins qu'il en est conscient. La bonne nouvelle, c'est de dire « mais par son esprit, lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu peut travailler dans nos cœurs. Dieu nous demande de coopérer avec lui et ce que nous sommes maintenant est probablement très différent de ce que nous serons dans 5 ans, 10 ans. Nul cœur n'est trop dur ou trop figé pour ne pas changer. Parce que Dieu, par son esprit, est capable de changer et de transformer les cœurs les plus durs. C'est une nouvelle vie que Dieu nous invite à vivre. Dieu est là pour restaurer notre cœur. Je disais tout à l'heure, mais combien de personnes se disent qu'elles ne méritent pas l'amour de Dieu ? Ne méritent pas l'amour de Dieu, bien sûr. Moi, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Bonne nouvelle, c'est que Dieu les a sauvés par grâce, par amour. Combien de personnes aussi ont l'impression d'être seules dans ce monde, sans aide ? La bonne nouvelle, c'est que Dieu est prêt à le secourir. Dieu est un secours pour ceux qui se confient en lui. Nous pouvons le prier, nous pouvons lui demander de nous apporter son aide, de nous donner les forces d'avancer dans ce monde. Combien de gens aussi souffrent parce qu'en raison de drames qu'elles ont vécu, leur cœur est détruit. Elles sont tellement blessées, tellement meurtries, qu'elles ont l'impression parfois d'être incapables d'aimer ou de se laisser aimer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est en mesure de nous rejoindre au plus profond de nos souffrances. Il n'y a pas de souffrance qui soit inatteignable par Dieu. Et que Dieu peut nous restaurer. Dieu peut nous aider à une nouvelle vie, à vivre avec lui, à guérir nos blessures les plus profondes. Nous sommes les porteurs de nombreuses bonnes nouvelles. Nous avons un formidable message d'espoir à annoncer. Que faisons-nous de ces bonnes nouvelles ? Bien sûr, nous sommes parfois découragés parce que nous constatons que ça n'a pas d'effet immédiat. Mais on ne peut pas savoir l'effet que produit l'annonce de l'Évangile dans un cœur. Moi, j'ai rencontré bien des chrétiens avant de venir à Jésus-Christ. Et ça, c'est probablement le cas de nombreuses personnes parmi nous. Saisissons les merveilleuses opportunités que Dieu nous offre. Et soyons conscients d'une chose, des fois, on est très timide, parce qu'on a l'impression que les gens vont nous rejeter. Mais si on se concentre sur l'aspect bonne nouvelle, comment les gens pourraient-ils rejeter ça ? Surtout qu'on n'a rien à imposer. On a juste à partager quelque chose que l'on sait sur Dieu. Et peut-être que la personne qui est devant nous n'a qu'une hâte, entendre de notre bouche la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Je vous invite à un moment de réflexion et je terminerai ce culte, notre culte, par la prière. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier de ce que tous ceux qui t'appartiennent ont pu entendre à une occasion ou à une autre, la bonne nouvelle qui vient de toi. Celle que tu te présentes à nous comme un Père aimant, comme un Sauveur, comme celui qui nous pardonne, qui nous fait grâce, qui nous aime, qui prend soin de nous, qui nous donne une vie nouvelle. Nous voulons te remercier pour la manière dont tu nous as parlé. Et nous voulons te remettre, Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas encore, ou tous ceux qui ont entendu parler de toi, mais dont le cœur ne s'est pas encore ouvert à toi. Te prions, Seigneur, pour qu'ils entendent les bonnes nouvelles qui viennent de toi, et que leur cœur, Seigneur, s'ouvre à cela. Nous te prions pour nous-mêmes, Seigneur, nous sommes tes ambassadeurs, nous sommes tes porte-paroles. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir vivre avec toi de telle sorte que nous reflétons ta personne, mais que nous puissions aussi, Seigneur, être les porteurs d'une bonne nouvelle. Nul être humain, Seigneur, n'est condamné par toi de manière définitive. Nul cœur n'est assez dur pour que toi tu le touches. Nul n'a fait des choses si atroces pour que ton sacrifice n'ait pas été suffisant. À chacun, Seigneur, tu tends la main. Que nous puissions, Seigneur, répandre autour de nous ces bonnes nouvelles. Donne-nous la sagesse de le faire. Donne-nous, Seigneur, la créativité de le faire. Et permets, Seigneur, que nous puissions tisser des relations de qualité avec les uns et les autres pour pouvoir communiquer ainsi les bonnes nouvelles qui viennent de toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta puissance. Et merci parce que la mission que tu nous as confiée est la plus belle des missions, celle d'annoncer de bonnes nouvelles. Grâce te soit rendue. Amen.